VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. Midi à Kinshasa, en RDC, 20 personnes ont été tuées entre dimanche et mardi en 3 jours d'affrontement entre pygmées et bantous à Kabalo, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP le député Kalunga Mawazo, élu de cette localité. Le bilan de ces heurts, provoqué par un désaccord autour d'une récolte de chenilles, a été confirmé sous couvert d'anonymat par un prêtre catholique de ce diocèse de la province du Tanganyika, dans le nord du Katanga. Toujours en RDC, fin ce mardi, des travaux du dialogue politique débutés à Kinshasa le 1er septembre dernier sous la facilitation du Togolais Edem Kodjo. L'accord politique qui doit sanctionner la fin des travaux a été adopté hier en plénière par toutes les composantes. Cet accord prévoit entre autres la mise en place dans 21 jours à compter de ce mardi d'un nouveau gouvernement dirigé par une personnalité de l'opposition, ainsi que l'organisation couplée de la présidentielle, des législatives et des provinciales en avril 2018. Reportage sur ce dialogue, toujours boudé par une frange de l'opposition et de la société civile, avec Thierry Kamboudi de Top Congo FM, nos stations partenaires à Kinshasa.
Après plusieurs jours de travail en comité restreint et l'annonce le week-end dernier d'un accord trouvé autour de l'accord politique devant sanctionner les travaux, les délégués de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile ont adopté lundi en plénière, sous la direction du facilitateur Edem Kodjo, le tant attendu accord politique pour une gestion consensuelle du pays jusqu'aux prochaines élections fixées en avril 2018. Avant la signature officielle de cet accord prévu ce mardi 18 octobre dans l'après-midi, Vital Kamerhe, chef de file et co-modérateur de l'opposition au dialogue, revient sur ce que sa composante a obtenu.
Pour nous, un, il fallait respecter strictement la Constitution. Le deuxième paragraphe du préambule dit que tout ce que nous faisons se fonde sur la Constitution de la République démocratique du Congo. Le troisième paragraphe du préambule dit que nous prenons tous l'engagement de respecter strictement la Constitution de la République démocratique du Congo pendant cette période intérimaire. Et quels sont les résultats que nous avons obtenus? C'est la date du 31 juillet comme date de la fin de l'enrôlement sur l'ensemble du territoire national, la date du 30 octobre 2017 comme date de la convocation des 3 scrutins combinés, la présidentielle, législative nationale et les provinciales, et 6 mois après, c'est-à-dire le 29 avril, c'est la tenue de ces 3 élections combinées. Et conformément à la Constitution, 10 jours après, c'est la passation du pouvoir.
Geneviève Inagossi, députée nationale et porte-parole adjointe de la composante majorité présidentielle, revient, elle, sur les points de divergence qui ont été aplanis avant d'aboutir à cet accord. Elle évoque également la possibilité pour le rassemblement de l'opposition qui n'a pas pris part aux travaux de le signer.
Tout le monde s'est accordé sur le fichier électoral, sur les séquences des élections, sur les calendriers électoraux et bien entendu sur la gestion consensuelle de la République après le 19 décembre. Les divergences qui ont été relevées ici ont été aplanies et que la voie est bien balisée pour signer l'accord. L'accord est ouvert pour être signé par toute partie, même celle qui n'a pas participé au dialogue. Du moment où le rassemblement se retrouve dans les dispositions qui ont été arrêtées et convenues ici au niveau du dialogue, il y a toujours de la place pour le rassemblement pour venir signer à tout moment. Mais pas pour remettre en cause l'accord tel qu'il a été convenu par les partis qui ont pris part au dialogue.
La clôture officielle des travaux du dialogue devrait donc intervenir ce mardi, alors qu'un peu plus tôt dans la journée de lundi, l'Union européenne rappelait aux acteurs congolais la nécessité de dialoguer et appelait à des élections en 2017. Selon Bruxelles, l'actuel dialogue doit ouvrir la voie à une nouvelle phase d'un processus politique plus inclusif au cours des semaines à venir. Il devrait être clarifié d'ici le 19 décembre la manière dont se déroulera la période transitoire jusqu'aux élections. Kinshasa, Thierry Kambouni de Top Congo FM pour VOA Afrique.
On reste en RDC où des représentants de la procureure de la Cour pénale internationale sont depuis dimanche et cela jusqu'à jeudi pour réitérer son appel au calme et à la retenue. La délégation de la CPI va rencontrer notamment des responsables de la RDC, des membres des partis politiques, de la société civile et de la presse. Le bureau de la procureure dit surveiller avec une extrême vigilance la situation sur le terrain et rappelle que la CPI va prendre toutes les mesures qui s'imposent pour traduire en justice les personnes responsables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Nigeria, la faction de Boko Haram, qui a prêté allégeance au groupe État islamique, a affirmé avoir tué 20 soldats nigériens et nigériens dans l'État de Borno lundi. Un chef local a confirmé que des djihadistes à bord de 8 véhicules ont pris les soldats par surprise. Ils ont attaqué à l'arme lourde et aux lance-grenades, puis ont emporté 6 véhicules militaires et des armes. Jeudi dernier, on se souvient, la faction de Shekau avait libéré 21 lycéennes de Chibok qui étaient en captivité depuis plus de 2 ans. Au Mali, réouverture des écoles à Kidal, fief de l'ex-rébellion, en présence du gouverneur nommé par l'État, une première depuis plus de 2 ans. L'État n'avait pas repris pied dans cette ville depuis des combats en 2014, lors d'une visite du premier ministre de l'époque, Moussa Mara, qui s'était soldé par une lourde défaite de l'armée face aux rebelles. Nous sommes aux États-Unis, présidentielle américaine, duel au couteau, demain mercredi, entre les candidats Donald Trump et Hillary Clinton, dans le cadre du troisième et dernier débat télévisé entre les deux candidats à la Maison-Blanche, Jacques Aristide.
Oui, Donald Trump retrouvera Hillary Clinton à Las Vegas. La démocrate restée cloîtrée chez elle, près de New York, pour se préparer. Elle devra sans doute se tenir prête à répondre à la publication par Wikileaks de milliers de messages piratés du compte Gmail du président de son équipe de campagne, John Podesta, qui révèle les tergiversations et machinations politiques de la candidate. Elle recueillait néanmoins 45,4% des intentions de vote, en moyenne contre 39,1% 1% pour Donald Trump, d'après la moyenne du site Real Clear Politics. Il y a 4 ans, jour pour jour, Barack Obama n'avait que 0,4 points d'avance sur le républicain Mitt Romney.
Melania Trump a défendu son mari dans une interview diffusée lundi, jugeant que ses propos obscènes à l'égard des femmes, enregistrés en 2005, n'étaient que des discussions entre garçons. Jusqu'à présent, assez discrète dans la campagne du candidat républicain Donald Trump, Melania Trump a accordé sa première interview télévisée à CNN. Son mari accuse dans les sondages un retard de 7 points face à Hillary Clinton après le scandale déclenché par cette vidéo et la multiplication d'accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles contre lui.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'armée russe a annoncé un arrêt immédiat des raids aériens des aviations russes et syriennes à Alep pour préparer la mise en œuvre d'une pause humanitaire jeudi dans la deuxième ville de Syrie. Selon Sergei Shoigu, l'arrêt dès ce mardi des raids aériens doit aider au succès des discussions axées sur la séparation entre l'opposition modérée et les terroristes à Alep, devant débuter, selon lui, mercredi à Genève. Les armes pourraient se taire jeudi au Yémen à la faveur d'une trêve de 72 heures renouvelable annoncée par l'ONU après 10 jours de violence et d'intenses pressions internationales. Le cessez-le-feu doit entrer en vigueur mercredi à 23h59. La locale, 20h59, GMT, a indiqué lundi le médiateur de l'ONU, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, en affirmant avoir reçu des assurances de la part de toutes les parties yéménites. Près de 3 millions de personnes au Yémen ont besoin d'une aide alimentaire immédiate et 1,5 million d'enfants souffrent de malnutrition, selon l'UNICEF. Enfin, les présidents russes Vladimir Poutine, français François Hollande, ukrainien Petro Poroshenko et la chancelière allemande Angela Merkel se réuniront demain mercredi à Berlin pour évaluer la mise en œuvre des accords de Minsk visant à résoudre la crise ukrainienne. L'Ukraine est en proie depuis plus de 2 ans à un conflit opposant ses forces à des séparatistes pro-russes qui sont, selon Kiev et les Occidentaux, soutenus militairement par la Russie, ce que Moscou dément catégoriquement. Le conflit a fait plus de 9 600 morts depuis son déclenchement en avril 2014 et malgré l'instauration de plusieurs trêves, des affrontements meurtriers ont régulièrement lieu le long de la ligne de front. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.